Et une nouvelle édition de l'économie en question, nous avons choisi de parler aujourd'hui du Royaume-Uni. Près de 6 mois après le spectaculaire rejet par sa population de son appartenance à l'Union européenne. Un événement qui rebat les cartes pour ce pays dans de très nombreux domaines. Accès au marché unique, relations commerciales avec le reste du monde, avenir de sa place financière, immigration, attractivité, autant de dossiers à la charge de Theresa May, nommée dès le mois de juin à la tête du gouvernement par David Cameron. Rien n'est acquis pour l'instant et les récentes révélations du Guardian sur des propos plutôt réticents qu'elle aurait tenus sur le Brexit en secret pendant la campagne devant un groupe de banquiers contribuent encore à jeter le trouble, une impression croissante que son équipe n'est pas tout à fait préparée à la mise en œuvre de tous ces changements. Nous allons en parler tout de suite. Certes, elle a du temps devant elle, mais quand même, quelles sont les conséquences déjà visibles sur l'économie britannique? Comment ce repli est-il perçu par les partenaires commerciaux, par le monde de la finance? Quels effets aussi à terme sur le marché du travail? Et comment, enfin, en cette fin de semaine, ne pas s'interroger sur les similitudes entre le vote américain et le vote britannique sous ses aspects économiques? Bien sûr, la mondialisation peut être en tête de liste de ces manifestations. Mr. Trump ne s'est-il pas autoproclamé Mr. Brexit? Et Madame May, de son côté, a rappelé avec un peu plus de chaleur que d'autres dirigeants dès mercredi matin le lien particulier avec l'Amérique dont Londres aime à se prévaloir. Commentaire et analyse tout de suite avec nos invités. De quoi le Brexit à l'heure des comptes est-il donc le signe? Et nous avons autour de notre table Henri Sterdignac, économiste au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Éric Chanet, économiste également, conseiller au comité de direction d'AXA-IM. Et Christian de Boissieu, économiste, professeur à Paris 1. Bienvenue à tous les trois. Je vous ai demandé à chacun de venir aussi avec un chiffre en toute fin d'émission, à commenter, à rapporter à d'autres chiffres, comme vous le voulez, choisi dans l'actualité. C'est bien l'économie en question et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. On commence donc avec le Brexit, qui reste notre sujet, mais comme je viens de l'indiquer, je pense qu'il sera intéressant de faire quelques commentaires et rapprochements qui ont déjà été faits sur le plan politique. Nous resterons bien sûr sur notre terrain, si tant est qu'on puisse séparer l'un de l'autre. La question du Brexit, donc enjeu encore très déterminant pour l'Europe, bien sûr la croissance britannique devrait atteindre cette année, je crois, autour de 1,9. Mais le risque est quand même important, notamment dans le secteur immobilier, si je pêche quelques informations. Risque également d'abord, il y a une dégradation de la note de la Grande-Bretagne qui a déjà fait effet. Les entreprises se posent beaucoup de questions. Et puis, il y a le problème de la City. Lequel de tous ces dossiers mettriez-vous en tête les uns et les autres, si l'on considère 6 mois après les premiers effets, s'il y en a, selon vous, de cette sortie de l'Union européenne? Henri Sterdignac.
D'abord, le Brexit, comme le vote en faveur de Trump, révèle un profond malaise dans ces pays, malaise qu'on connaît aussi dans un grand nombre de pays de la zone euro, hein, le fait qu'une partie importante des classes populaires se sent mis à l'écart de la croissance, mis à l'écart des effets de soi-disant favorables de la mondialisation ou de la globalisation financière, et ces gens du coup, ben, ont tendance à voter contre les élites, contre ce que proposent les hauts fonctionnaires, les personnes qui savent, les experts. Il y a donc une sorte de refus qu'on voit dans l'ensemble, dans le vote du Brexit, dans le vote pour Trump, dans le vote, par exemple, des Néerlandais contre l'accord d'association avec l'Ukraine. C'est vraiment ça le point essentiel et la question qui se pose. C'est que faire? Est-ce que effectivement il faut leur dire écrasez-vous, ou est-ce que il faut un changement de politique? Le problème, c'est quel changement de politique? Et l'intérêt du Brexit, c'est que Madame Theresa May semble décider à dire, on va avoir une politique plus sociale, on va plus prendre en compte la question des travailleurs, de ceux qui ont souffert de la mondialisation, on va faire une politique industrielle. Et donc ça, c'est un tournant qui est important surtout venant du pays phare du libéralisme.
Qu'est-ce qui est en cause ? C'est plus la mondialisation commerciale ou la mondialisation financière ? Vous avez cité les deux, de votre point de vue, peut-être premier question de Boissieu.
Moi, je pense que ce sont les deux. Et c'est difficile de pondérer le commerce et la finance sous cette terre-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, Madame May a pris tout le monde un peu à contre-pied, parce que elle est membre éminent du Parti conservateur. Et elle arrive après le vote du 23 juin en disant la question centrale de la Grande-Bretagne sont les inégalités. Donc elle prend son parti à contre-pied, elle prend les observateurs.
Moi, j'ai même pas l'opinion, oui.
J'ai pas entendu Monsieur Blair, quand il était Premier ministre travailliste, être aussi affirmatif de ce côté-là. Deuxième point, pour aller vite, si je me projette un peu dans l'avenir à partir de là, moi la question qui m'intéresse, c'est vraiment distinguer du point de vue économique les effets à court terme des effets dans la durée. Ouais. Parce que, au fond...
c'est la vraie question, d'ailleurs.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu la catastrophe annoncée, parce que ce sont des effets à très court terme. La livre sterling a chuté de 15 à 20%. Il y a eu beaucoup de touristes en Grande-Bretagne pendant l'été. Alors, aspect négatif, l'inflation repart un peu. Et donc là, il peut y avoir un débat. Enfin, il y a une petite remontée de l'inflation à cause du prix des imports. Mais ça, c'est les effets à court terme. Pas de catastrophe. Moi, je pense que, dans la durée, cette affaire, du point de vue de la croissance, va être une affaire perdant-perdant. C'est-à-dire, je pense que c'est pas bon pour le Royaume-Uni et c'est pas bon pour nous. Et là, on retrouve les aspects commerce. On parlera tout à l'heure, j'imagine, de la finance. Mais j'en reste au commerce.
Oui, même question pour vous, d'ailleurs, Eric Chanet. Commerce, dans tous les points que nous avons rappelés un peu en titre, attractivité. On va parler d'immigration aussi, bien sûr, et de la circulation, la libre circulation des personnes.
Oui, Christian de Boissieu a raison. Il faut vraiment distinguer le court terme, pour lequel les conséquences, si je veux être un peu provocateur, sont plutôt positives pour le Royaume-Uni. La dépréciation de la livre sterling permet de gérer plus facilement le déficit courant du Royaume-Uni. L'impact principal de cette dépréciation étant d'ailleurs de revaloriser les actifs que l'Angleterre a à l'étranger. C'est pas une histoire d'être plus compétitif pour vendre ses produits, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est à peu près le seul pays dans le monde développé, où les anticipations d'inflation ont remonté, ce qui est une bonne nouvelle. Toutes les banques centrales du monde entier, tous les jours, nuit et jour, se demandent comment faire remonter les anticipations d'inflation. Et là, miracle, les anticipations d'inflation sont remontées au Royaume-Uni, ce qui aide les taux d'intérêt à remonter et à réduire en réalité les taux d'intérêt réels, ce qui est plutôt bon pour l'économie. Mais ça, c'est le court terme. À long terme, la véritable question sera comment le Royaume-Uni, comment l'économie du Royaume-Uni s'insérera dans le commerce mondial. Et je donne juste un calendrier pour montrer à quel point ces choses-là vont être compliquées et longues, à déchiffrer. La négociation sur le Brexit est une négociation sur les termes du divorce. Elle prendra 2 ans.
Au moins.
Il n'y aura pas...
Au moins.
Elle prendra 2 ans à partir du moment où l'article 50 est déclenché, c'est-à-dire du mois de mars. Mais cette négociation sera sur les termes du divorce. La négociation sur de nouvelles relations commerciales, ce qui inclut les services, qui est évidemment l'élément le plus important pour le Royaume-Uni, peut prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça a pris 6 ans pour la Suisse. Donc, si je fais 2 plus 5 ou 6, nous pensons déjà à un horizon de 7 à 8 ans pour voir comment l'économie britannique s'insérera dans le commerce mondial, et en particulier, et c'est très important, avec ses partenaires, je ne peux pas dire d'Europe continentale, puisque ça inclut aussi l'Irlande.
Oui. Il faut rappeler, c'est très important, que par rapport à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, le Royaume-Uni fait partie, est membre de l'OMC, mais avec les autres membres de l'Union européenne, pas en tant que tel. Et c'est quand je parlais d'impréparation, j'étais peut-être un peu sévère dans mon chapeau.
Non, vous avez raison.
Mais il y a eu une anecdote, d'ailleurs c'est le bout que je l'ai trouvé, je crois.
Vous avez complètement raison. Vis-à-vis de l'OMC. Le ministre du commerce international du cabinet de Madame May a expliqué que le Royaume-Uni était prêt à se mettre en règle avec les règles de l'OMC, ce qui n'est pas vrai, puisque les règles de l'OMC sont gérées d'une manière fédérale par la Commission européenne pour tous les pays de l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni. Donc il ne connaît pas ces dossiers, ce qui est une nouvelle preuve que c'était pas tout à fait ce que souhaitait le cabinet de Mme May qu'on arrive au Brexit. Le point que je veux faire, c'est que comme c'est très long, les entreprises n'attendront pas 7 à 8 ans avant de prendre des décisions sur où est-ce qu'elles vont travailler, comment elles vont travailler. Et donc, on va voir plus rapidement que l'échéance de ces négociations comment les entreprises, le Royaume-Uni est un des pays les plus internationalisés pour le bien et pour quelquefois le moins bien, on va voir comment les entreprises vont réagir. Le fait que Nissan apparemment ait eu quelques garanties est assez surprenant parce que tous les autres viennent dire « et moi, j'en veux la même chose », ce qui ne sera évidemment pas possible. Là, il y a un gros facteur d'incertitude pour l'économie britannique.
Bien sûr, et notamment aussi, on va le voir un peu plus tard, on va parler de la finance, comment les banques aussi commencent à se poser sérieusement la question de rester ou pas. Il y a tout ce phénomène aussi d'appel, c'est-à-dire que si on commence à en partir, ça va entraîner les autres. Henri Sterdyniak sur ce point. Et les accords avec les pays seuls aussi. Que va faire l'Angleterre seule, le Royaume-Uni seul avec la Chine? C'est pas la même chose que l'Union européenne versus la Chine.
Eh bien, elle signera des accords. Il ne faut pas non plus dramatiser la situation. On est dans un monde où il y a beaucoup d'interdépendance et tout le monde a intérêt à signer des accords et à pas provoquer de drames. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont des relations étroites avec des entreprises britanniques. Elles vont pas les rompre, que ce soit dans le domaine de l'Airbus, dans l'énergie, dans la défense. Toutes ces entreprises ont tout à fait intérêt à ce que ça reste en place. La question qui va se poser effectivement dans les années à venir, c'est la question de l'avenir de la mondialisation commerciale. Elle est posée par le Brexit, elle est posée aussi par Trump, elle est posée. Est-ce que effectivement le temps n'est pas venu de retrouver un certain protectionnisme, et est-ce que ce protectionnisme, ça ne sera pas extrêmement favorable pour les ouvriers, les classes populaires des pays développés? Et c'est ça la question qui est posée. On ne peut pas continuer à dire il n'y a pas de problème, la mondialisation c'est bien pour tout le monde, et on a le choix entre deux stratégies, soit effectivement on met en œuvre des barrières douanières et des barrières de normes, soit effectivement on se pose vraiment la question, lorsque il y a des accords commerciaux qui sont mis en œuvre, qu'est-ce qu'on fait effectivement pour indemniser les perdants? Alors jusqu'à présent on n'a rien fait, je veux dire on laisse les perdants se débrouiller. Et donc la question...
Et ce ne sont pas les régions des perdants qui en ont profité, surtout.
Il y a les régions des perdants, il y a des personnes qui ont fait des qualifications industrielles. Qu'est-ce qu'on fait pour eux?
Christian Boissieu, on parle de protectionnisme, le mot lâché.
Je ne suis pas d'accord avec Henri. Ce qu'Henri dit est totalement catastrophique. J'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer.
La situation est effectivement catastrophique. On voit bien que le résultat d'un protectionnisme.
On a échappé au protectionnisme en 1930 et tu souhaites le ramener maintenant.
Non maîtrisé compte tenu des différences de salaire, ça brise complètement la cohésion sociale et ça aboutit à la situation où on est, Trump d'un côté, le Brexit de l'autre. Il faut bien répondre à ça.
Christian Boissieu, puis Éric Chenet, promis.
Je vais essayer d'en placer une quand même. Il me semble que le débat posé, et le débat effectivement dans les négociations commerciales, le débat bilatéral versus multilatéral. Le Brexit va modifier les relations entre la Grande-Bretagne et ce qui reste de l'Union européenne, les 27, qui, parenthèse, dans les négociations, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Moi, sur un certain nombre de sujets, j'ai déjà vu des différences entre la France et l'Allemagne, y compris sur la question du calendrier. Bon, l'avenir de ces relations commerciales et donc l'impact économique du Brexit va dépendre du statut futur du Royaume-Uni par rapport à nous. J'exclus l'hypothèse comme quoi le Royaume-Uni rentrerait dans l'espace économique européen. Aujourd'hui, l'espace économique européen, c'est les 28, en comptant la Grande-Bretagne, plus trois pays qui ont un statut rapprochés de nous, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et ces trois autres pays, on rapproche souvent le cas de la Grande-Bretagne du cas de la Norvège, c'est comme s'ils étaient dans le marché unique, au point de vue, disons, des liens entre eux et nous. Je pense qu'on n'est pas dans ce scénario où la Grande-Bretagne deviendra comme la Norvège. Est-ce que la Grande-Bretagne sera dans ses relations avec nous comme la Suisse?
Comme la Suisse, voilà.
Pays tiers. Et ça rejoint le débat sur les négociations OMC. Un mot pour Éric Chenet, qui a parlé de l'OMC à juste titre. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que l'OMC est nulle part aujourd'hui. Les négociations sont totalement bloquées dans le cadre de l'OMC.
On a de plus en plus de bilatérales.
La mondialisation. Et le point commun entre, le Brexit et le super Brexit, comme l'appelle Trump, le Brexit au cube, je crois qu'il a utilisé l'expression, c'est comme ça qu'il a vu l'élection américaine de son point de vue, en tout cas, c'est qu'effectivement, Trump veut remettre en cause un certain nombre de négociations multilatérales ou même bilatérales, et que donc le débat s'oppose là. Et je termine en disant que tant qu'on ne sait pas quel sera le statut définitif, chacun va se battre. Les Britanniques, ils vont se battre pour conserver ce qu'on appelle le passeport européen en matière financière. Ça veut dire, le passeport européen,
voilà,
ça veut dire...
Voilà, ce que c'est.
Non, mais c'est la transition.
J'allais le faire.
Excusez-moi, mais c'est un point important, parce que c'est un aspect important du marché unique.
Et c'est la transition vers l'aspect finance qui me...
Si les Britanniques conservent le passeport européen, ça veut dire que la fuite des opérateurs financiers de Londres sera limitée, parce que de Londres, ils pourront continuer à vendre, à commercialiser des produits financiers dans le reste de l'Europe. S'ils n'obtiennent pas, de notre part, la négociation va être dure, donnant-donnant, à mon avis. C'est pas gagné. S'ils n'obtiennent pas le passeport européen, ça veut dire que s'ils sont pas dans quelque chose qui serait assez proche d'un marché unique, et à mon avis, ça va être très compliqué, parce que Mme May et les Britanniques, ils veulent remettre en cause la libre circulation des personnes, qui est un des aspects, un des piliers du marché unique, et conserver les autres aspects du marché unique. Est-ce que les propriétés du marché unique sont séparables ou pas séparables? C'est ça l'enjeu de la négociation.
On va y venir. Ils ont l'air de penser qu'ils y parviendront à conserver ce fameux passeport, qui est effectivement pour eux capital. En revanche, ce n'est pas forcément l'avis de tous les groupes installés chez eux dans la City, la fameuse City de Londres qui regroupe, on le sait, une très très forte puissance financière mondiale. Et juste une actualité, c'était il y a quelques jours, la grande banque américaine Goldman Sachs, qui a quand même de très grandes activités dans le centre financier de Londres, se prépare à sortir parce qu'elle veut sécuriser son accès au marché européen. Annoncé par les médias, confirmé, Eric Chanet, vous avez peut-être des informations là-dessus. Ça me paraît quand même assez significatif.
Non, je n'ai pas d'informations, mais je pense que l'analyse réaliste est de penser que...
C'est peut-être un conseil de M. Barroso, d'ailleurs.
Le reste de l'Union européenne ne donnera pas au Royaume-Uni un passeport pour les produits financiers.
Donc ils ne l'auront pas.
Ça, il y aura probablement, mais je le répète, c'est une négociation qui commencera à la fin.
D'accord, mais elle arrivera quand même.
Donc qui commencera en 2019. Et je le répète, les entreprises doivent prendre des décisions d'ici là. Et il est très peu probable que le passeport tel qu'il est aujourd'hui soit octroyé au Royaume-Uni. Ça ne pourrait se faire qu'avec la libre circulation des personnes. Et là, je voudrais revenir quand même sur le point soulevé par Henri de Serdignac. Ceux qui ont voté pour le Brexit en Angleterre, ce ne sont pas les ouvriers qui ont perdu leur travail, ce sont les retraités, avant tout. Alors, ils ont perdu leur travail dans les années 70, premièrement. Deuxièmement, la principale motivation, ce qui a été révélé par toutes les enquêtes, c'est la crainte de l'immigration. Ce sont les Polonais qui travaillent dans des petites villes anglaises qui ont été les boucs émissaires de ce référendum. Or, cette question de la libre circulation des personnes est crucial pour la compétitivité de l'économie britannique. D'une part, pour la partie la plus qualifiée de la force de travail. Je vais vous donner un exemple. L'université de Cambridge, qui, selon certains critères, est la première université scientifique du monde, a 63% d'étudiants étrangers. 70% du corps professoral est étranger. Faites la somme de tous les étudiants de toutes les grandes écoles et des meilleures universités françaises, vous arriverez à 5 à 10% d'étudiants étrangers. Faites-le pour le corps préfectoral. Donc, à la fois pour la partie la plus qualifiée, ce qui fait la force du Royaume-Uni, c'est d'être capable d'attirer les talents. Pour la partie moins qualifiée, je suis désolé, mais le marché du travail britannique étant flexible, ayant pu attirer du travail moins qualifié, cette économie a pu prospérer et rester au plein emploi. Alors, appeler de ses voeux le protectionnisme dans ces conditions-là me paraît d'abord ne pas bien s'appliquer au coin du Royaume-Uni. Et si on y appelle pour l'Europe, excusez-moi, on a vu où ça nous conduisait en 1930. On n'a pas envie de recommencer.
Je ne suis pas sûr qu'Henri Sterdignac adhère au terme de plein emploi au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni est au plein emploi. Les États-Unis sont au plein emploi. Nous sommes tous d'accord. C'est quand même un peu bizarre à ce moment-là que les ouvriers, effectivement, les classes populaires, aient le sentiment que non.
Elles ont
le sentiment que leur situation s'est profondément dégradée, qu'elles n'ont pas de hausse de pouvoir d'achat, qu'elles ont généralement des baisses et que surtout, leur travail s'est extrêmement précarisé. Les emplois stables qui étaient relativement bien rémunérés, dont disposaient jadis les ouvriers, ont disparu dans, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et on a des régions importantes qui sont en situation de détresse. Naturellement, il y a beaucoup de phénomènes qui expliquent ça. Et un des éléments, c'est le fait qu'ils ont le sentiment qu'on fait venir des travailleurs à bas prix des pays de l'Est, alors qu'eux-mêmes, ils sont en situation de chômage. On peut dire ça n'a rien à voir. Le fait est que c'est un des moteurs principaux qui explique le vote Trump, le vote Brexit. Et voilà. Et donc, on peut dire on s'en fout. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est difficilement compatible avec le fait que nous restons, on peut le regretter, on reste des démocraties. Et du coup, voilà. Et du coup, ça coince.
Encore un petit peu sur le long terme, hein, puisque c'est quand même la question. Au fond, moi, j'avais situé la chose à 6 mois pour faire un peu un bilan d'étape. Si je vous entends bien, pour l'instant, rien n'est très significatif. En revanche, le long terme pose problème. Vous confirmez
est-ce
ça
que je peux ajouter quelque
C'est
chose
l'impression
sur la
que
City.
Vous donnez.
Parce que moi, je pense que cette question essentielle du passeport, ils ne l'auront pas. Et que donc, l'industrie financière va se relocaliser dans d'autres régions de la zone euro, Irlande, France, Allemagne, Luxembourg, Amsterdam, les candidats ne manquent pas.
Ils sont tous
et
candidats.
On leur déroule le tapis rouge. Et ailleurs, aux États-Unis également. Bien, dans le passé, le Royaume-Uni et la ville de Londres, qui est par exemple la même chose que la City, a montré une capacité à se réinventer extraordinaire. Et j'observe que depuis quelques années, depuis la crise, qui s'est traduite quand même par une réglementation financière qui réduit énormément les profits de la finance. La City se reconvertit vers la technologie. Quel est le plus grand centre de recherche sur l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui? C'est une petite société qui s'appelait DeepMind, d'ailleurs fondée par 3 immigrés. Enfin, l'un qui s'appelle Demi Sassabis était né en Angleterre, mais vous comprenez par son nom que ses parents ne l'étaient pas, qui a été racheté par Google et qui fait des choses absolument extraordinaires. Quel est le
plus grand... Si je vous entends bien, on va se retourner vers le numérique.
Vers la technologie en général, parce que ça concerne énormément les biotechnologies. On l'abandonnera pas. Mais la City est déjà en train de se reconvertir. Le centre de recherche de Francis Crick Institute, qui est juste à côté des énormes bureaux de Google, est entièrement consacré à la recherche génétique et le lien avec l'intelligence artificielle. Et donc, si Madame May continue à suivre son espèce de populisme, il faut fermer nos frontières, il faut plus qu'on vienne nous embêter, eh bien, ça ne se produira pas, et là, le Royaume-Uni tombera. Mais si le Royaume-Uni maintient sa tradition, alors là, on aura une réinvention, mais plutôt vers la science et la technologie.
On est en train déjà de conclure, Christian de Boissieu.
Moi, je pense que les Britanniques vont chercher à négocier, de leur point de vue, une sorte de statut ad hoc, qui n'existe pas, et qui vont chercher à créer dans les négociations avec nous. Ça ne sera pas la Norvège, ça ne sera pas la Suisse, ça sera un pays tiers avec les problèmes d'équivalence de réglementation. Ça sera quelque chose qu'ils vont vouloir créer. À nous, les 27 qui restons dans l'Union européenne, à nous de savoir négocier. Parce que n'oubliez pas que les Britanniques sont de redoutables diplomates. Ils sont malins. On l'a déjà bien vu, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec les premiers propos de Mme May, qu'il y a une grande intelligence politique, apparemment. Donc, sur le passeport, je pense qu'il ne faut pas se livrer tout nu, et donc il ne faut pas leur donner, s'il n'y a rien en échange, et ils n'auront probablement pas le passeport. Alors, s'ils n'ont pas, il y aura effectivement un potentiel de redéploiement de la place de Londres vers d'autres places. Paris se croit déjà bien placé. Moi, je pense que le débat sur l'attractivité de la France et de Paris est ouvert. Quand on regarde les dernières mesures qui ont été annoncées, c'est pas du tout gagné. Il y a Dublin, il y a Amsterdam, etc. Et donc, je répète, je pense aussi, je voudrais terminer sur la question du calendrier. Les Britanniques restent maîtres du calendrier. C'est ça qui m'embête dans cette affaire.
Parce que, mais ils le sont depuis le premier jour, je crois.
Oui, mais ça, c'est le traité. Traité qui fixe ça. Ils restent maîtres. C'est eux qui disent, on enverra la lettre avant mars. Avant, ils avaient même parlé de la fin 2017. Et puis, sur la suite, je pense qu'il y a une asymétrie aussi. Et moi, je souhaite que les 27 qui restons dans l'Union, nous soyons solidaires, c'est pas gagné. Parce qu'il y a des pays dans les 27 qui ont toujours été proches de la Grande-Bretagne dans beaucoup de négociations. Je pense à la Pologne, sur les questions de défense. Je pense à la Suède. Donc, c'est pas gagné du tout.
Oui, l'Union européenne ne marchait pas.
Je disais juste à Christian de Boissieu, je ne sais pas si ça a été entendu, les 27 affaiblis quand même.
L'Union européenne ne peut pas considérer qu'elle marchait bien avant le Brexit. Et d'autre part, on ne peut pas prendre cet événement en disant, on va essayer que ça remarche comme avant. Donc c'est une opportunité. Il faut changer, il faut se poser la question, est-ce que vraiment il faut attirer la place financière de Londres? On peut se dire, après tout, comme l'a si bien dit Eric Chanet, la finance, c'est périmé, on n'en a pas besoin, il faut mieux faire autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il ne faut pas oublier non plus que la Grande-Bretagne, elle va se battre. Elle va se battre, elle a des arguments.
Et elle sait le faire, en général.
Elle va essayer de développer un modèle différent. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement, il faut obligatoirement lier les accords commerciaux avec la perte de souveraineté politique? Ça posait une question, quand même. Il faut réinventer une nouvelle Europe. Il faut se poser la question, quelle Europe on veut? C'est une opportunité à saisir. On n'est pas obligé de vouloir faire sans la Grande-Bretagne ce qu'on faisait déjà mal avec elle.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est une opportunité de remettre les choses à plat. Et il faut revoir de fond en comble le projet européen, nos ambitions, et les revoir peut-être à 27, et aussi modifier la gouvernance de l'Europe.
On arrête là et on regarde quels chiffres vous nous avez apportés. Éric Chanet, on commence avec vous.
Alors, mon chiffre, c'est 200 000. Mm-hmm. Bon, on n'a pas encore les résultats totalement détaillé de l'élection présidentielle américaine, mais ce qui ressort et qui a l'air assez robuste, c'est que Mme Clinton a gagné cette élection avec 200 000 voix d'avance. Je tiens à faire cette remarque parce que j'entends beaucoup de projections qui sont faites pour notre propre grand événement politique, l'élection française. Si cette élection avait eu lieu en France, Mme Clinton aurait gagné avec 200 000 voix d'avance, ce qui ne fait que 0,5% de l'électorat. Mais enfin, c'est la démocratie.
Et très, très courte explication, cela tient
l'explication, c'est le système
régions.
Des grands électeurs. Voilà. Tous les électeurs n'ont pas le même poids. Et ceux des régions qui ont peut-être le plus souffert de la mondialisation dont parle Henri Sterdyniak, mais qui sont aussi des régions agricoles et qui ont une certaine idéologie, ces électeurs pèsent plus en termes de grands électeurs que les habitants de New York, de San Francisco et donc des mégalopoles. Les mégalopoles sont sous-représentées dans le système américain.
200 000, on retient votre chiffre tout de même pour l'histoire. Christian Bossieux.
Mon chiffre, c'est 0,5. 0,5, c'est le taux d'inflation moyen dans la zone euro sur un an en octobre. Alors, ça remonte un petit peu, puisque en septembre, on était à 0,4. Mais par rapport à ce que disait tout à l'heure Éric Chanet, c'est vrai qu'on est dans un contexte où la Banque Centrale Européenne lâche tout. Et finalement, on est encore loin de son objectif, qui est d'avoir un taux d'inflation moyen dans la zone euro inférieur à 2, mais proche de 2. Donc ça veut dire qu'il y a encore des pays, évidemment, de la zone euro qui sont en déflation. Il y a des secteurs, il y a des entreprises qui sont en déflation. Nous sommes encore au bord de la déflation, même si l'inflation est légèrement positive. Il faut du temps pour reflatter nos économies.
Merci Christian de Boissieu. Henri Sterdyniak, enfin.
Moi, je vais terminer sur un chiffre optimiste. C'est 52 200.
Bienvenue, merci.
Voilà, c'est le nombre de créations d'emplois ce trimestre dans les entreprises françaises, les entreprises marchandes. Donc ça veut dire que y a un mieux. 52 000, c'est pas mal. Il y a un mieux. Il arrive peut-être un peu tard au niveau politique, mais bon, une politique qui est multiforme, commence petit à petit à faire reculer, à augmenter l'emploi en France.
Merci, on est content de l'entendre en effet. Et à l'intention d'Éric Chanet, ce ne sont pas des emplois aidés. On a bien parlé d'emplois marchands.
Non, c'est des emplois dans les entreprises, dans le secteur marchand privé.
C'était l'économie en question. Donc Henri Sterdyniak que l'on vient d'entendre, Christian de Boissieux et Éric Chanet. Merci à tous les trois. On se retrouve bien sûr samedi prochain. Très vite pour saluer notre petite équipe, Laetitia Coria qui réalise l'émission avec Jean-Frédéric. Salut à eux. Et bien sûr Laurence Genepin, préparation, documentation. Tout sur notre site et venez nous retrouver sur Twitter avec vos commentaires que vous souhaiterez. À samedi prochain.